Une nuit plutôt agitée, des violences ont éclaté après la mort de deux hommes dans une opération de gendarmerie à Saint-Louis hier matin. Retour sur les faits dans ce journal, mais aussi sur la réaction du haut-commissaire Louis Lefranc. L'actualité politique nationale, 38 noms, c'est ce que Michel Barnier aurait présenté ce matin à Emmanuel Macron. Le Premier ministre aurait donc terminé ses arbitrages pour constituer son équipe gouvernementale. À l'étranger, Israël va recevoir un terrible châtiment, déclaration du chef du Hezbollah. Il s'exprimait au lendemain d'une double attaque meurtrière visant la milice chiite. Le football et le stade du Roudourou qui vit la Ligue des Champions. Brest accueille le Sturm Graz, une première pour le petit Pousset. On suit particulièrement également ce matin Monaco qui reçoit le FC Barcelone. La météo en Nouvelle-Calédonie. Sur la côte ouest, le temps reste bien ensoleillé malgré un voile de nuages élevé pour cet après-midi. Ailleurs, les nuages restent plus présents. Quant aux températures maximales, elles sont en hausse. Elles sont comprises entre 24 et 27 degrés. Localement, 28 à 29 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité sur le territoire.
Oui, avec cette poussée de violence hier soir après la mort de deux hommes à Saint-Louis le matin. À Nouméa, les forces de l'ordre ont été prises à partie dans plusieurs quartiers. Les policiers ont notamment fait face à des affrontements à Magenta et Tuban et ont fait usage de gaz lacrymogène et de grenades de désencerclement. Une vingtaine d'incendies en moins de 24 heures également pour les pompiers de Nouméa, qui ont dû éteindre des feux de brousse et de détritus dans les quartiers de Magenta-Tour et Aérodrome, de Tuban, Caméré, Ducos, Normandie, Vallée du Tir, Vallée des Colons et Rivière-Salée. Du côté de Dimbéa, des routes ce matin sont encombrées par des déchets qui ont été déposés dans le courant de la nuit dans les quartiers d'Auteuil, La Pérouse, Tacutéa et Dimbéa-Centre à hauteur du lycée d'Ikukewe. Les équipes municipales sont actuellement à pied d'œuvre pour nettoyer la voirie. Précisons que les routes sont passantes. En brousse également, la case de Deva à Bouraille a été incendiée, elle est totalement détruite. Écoutez Lee Vaillerois, habitant de la commune.
Aujourd'hui, c'est encore avec tristesse qu'on constate de ça. Ça ne va pas attendre les tensions, je ne sais pas si c'est criminel. Mais bon, aujourd'hui, encore une fois, Bouraille a été visée sur une exaction qui est quand même sur un domaine provincial où il y avait un investissement conséquent sur ces structures, infrastructures. Et cette case, elle est quand même représentative, je crois que c'est 2014, elle a été construite, et aujourd'hui, elle est détruite en 2024, 10 ans après. Sur Guaro, il y avait quelques tensions, notamment avec les cordes sur la route, avec la mairie qui avait essayé de régler un peu les soucis, en faisant des travaux pour baisser un peu la tension de la tribu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate, c'est que on a encore perdu quelque chose sur Bouraille. Aujourd'hui, c'est une case, demain, ça va être quoi? Enfin, ça va s'arrêter quand, quoi? Beaucoup de frustration sur Bouraille, quoi. Encore aujourd'hui, quoi, un deuil sur Bouraille et un édifice qui était respecté par les Bouraillais, quoi. Donc, c'est désolant.
Je le disais, cette recrudescence de la violence intervient quelques heures après la mort de deux hommes hier matin à Saint-Louis au cours d'une opération des forces de l'ordre. Cela porte à 13 le nombre de morts depuis le début des violences insurrectionnelles le 13 mai dernier. Dans un communiqué, le procureur de la République, Yves Dupas, précise que ces décès sont intervenus dans le cadre d'une opération judiciaire. Elle visait à interpeller plusieurs auteurs présumés de vol avec armes et de tentatives de meurtre sur les gendarmes mobiles qui sécurisent la RP1, Isabelle Pelletier.
Selon les premières investigations, les gendarmes mobiles ont été visés par plusieurs coups de feu alors qu'ils effectuaient une manœuvre avec des véhicules blindés. Un gendarme du GIGN a tiré deux coups de feu alors que des gendarmes en mission d'observation auraient été directement menacés par le groupe d'individus armés dont les visages étaient dissimulés. Le premier tir du gendarme a touché un homme âgé de 30 ans qui était positionné comme tireur isolé et qui a été blessé au niveau du flanc droit. Il a reçu les premiers soins d'urgence par le médecin de la gendarmerie et il est décédé lors de son arrivée au CHT. Le second tir a atteint un homme âgé de 29 ans qui a été touché au niveau du thorax et qui est décédé alors qu'il se trouvait encore dans la tribu, son corps ayant été remis aux équipes de secours au niveau du Verrou Nord. Le procureur de la République précise aussi que 3 armes longues de type carabine ou fusil de chasse de gros calibre ont été saisies et que l'une de ces armes était encore chaude lors de la saisie.
Et le procureur de la République ajoute que le parquet a ordonné l'ouverture de 2 enquêtes, Isabelle.
La première enquête a été confiée à la section de recherche de Nouméa pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique en bande organisée. Elle concerne les tirs visant les gendarmes. C'est le bureau des enquêtes judiciaires de l'inspection générale de la gendarmerie nationale qui est saisi de la seconde enquête pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, portant sur l'usage des armes par le gendarme du GIGN et la mort consécutive des 2 personnes recherchées.
Le procureur de la République qui précise aussi que les 2 personnes décédées faisaient l'objet d'un mandat de recherche en date des 18 et 29 juillet dernier. parmi un total de 13 personnes mises en cause, recherchées et localisées à la tribu de Saint-Louis. Après un entretien la semaine dernière avec les autorités coutumières, il avait fait remettre des convocations aux auteurs présumés pour tenter d'obtenir leur présentation spontanée à la gendarmerie. Mais cette médiation s'est révélée infructueuse à ce jour. Une situation que déplore le haut-commissaire Louis Lefranc, qui était en direct hier soir dans nos studios.
C'est ça qui est bien désolant. Il y a eu beaucoup de réunions avec les autorités coutumières locales de la tribu de Saint-Louis, des tentatives de médiation. Je pense que les autorités coutumières ont fait tout ce qui leur était possible, tant auprès des parents de ces individus que des intéressés, lorsque ceux-ci acceptaient d'être approchés, ou de leurs amis. Mais visiblement, les individus n'écoutent ni leurs parents, ni les autorités coutumières. Ils sont dans une position de posture que je qualifierais non pas de défensive, mais offensive contre les gendarmes, dès que les gendarmes apparaissent dans leur champ de tir.
Le haut-commissaire a par ailleurs rappelé le contexte sur place en rappelant que la sécurité n'est toujours pas assurée sur la RP1 à hauteur de Saint-Louis.
Moi, je ne peux pas prendre la responsabilité de réouvrir la route provinciale si la sécurité des usagers de la route est engagée. Je rappelle quelques éléments très brefs. Depuis le 13 mai, sur cette route provinciale, 313 tirs contre les gendarmes, contre leurs véhicules. La semaine dernière, des tirs ont été effectués avec des armes de gros calibre qui ont failli percer le vitrage blindé des Centaures. Il faut changer les vitres, des vitres de plusieurs centimètres d'épaisseur. Des carjackings, 56 carjackings. Donc des mondoriens ou des non-mondoriens qui prenaient cette route provinciale quand c'était possible de le faire, qui se sont fait voler leurs véhicules, braqués. Certains ont été dénudés. Ce sont des actes d'une agressivité extrême. Moi, je salue le calme et la sérénité, le sang-froid de la population du Mont d'Or qui a été victime de tout cela. Ils auraient pu, eux aussi, faire comme ceux qui les ont agressés, faire usage d'armes. Parce qu'il y a beaucoup d'armes dans ces territoires, ça ne s'est pas fait. Le rapport de force aujourd'hui, je dirais, il est sain. Il y a d'un côté l'État, avec les forces de police, de gendarmerie, ses services d'investigation spécialisés, et il y a des émeutiers, des individus qui veulent avoir le dernier mot en ayant l'usage des armes, en n'hésitant pas à agresser d'honnêtes gens qui n'auront rien fait, en prenant leur véhicule et en tirant sur les forces de l'ordre. Force doit rester à la loi. C'est ça la ligne.
L'objectif, répète le haut-commissaire, c'est de rouvrir la route provinciale et pour cela, la sécurité doit être au rendez-vous et ce n'est pas encore le cas. Le haut-commissaire qui revenait hier soir également sur ce qui s'était passé dans la matinée.
Ce qui s'est passé ce matin est désolant. Deux jeunes, un de 30 ans, un de 29 ans, sont morts ce matin. C'est pas normal, c'est pas normal. Mais ces personnes, s'ils avaient eu le bon réflexe, qui aurait été celui non pas de tirer sur des gendarmes, mais tout simplement de se rendre, on n'en serait pas là. Ils n'ont pas d'autre issue, je le redis. Tous ces individus, une bonne dizaine, que de se rendre, qu'ils écoutent les autorités coutumières qui leur ont conseillé de se rendre. Ils doivent se rendre.
Une interview du haut-commissaire à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Et auparavant, le FLNKS avait rencontré la presse pour réagir à la mort de deux personnes à Saint-Louis. Une réaction outrancière de la part du FLNKS, tendance UC-CCAT-RDO, qui dénonce des assassinats et un génocide du peuple kanak. Il appelle aussi à une désescalade dans ce communiqué lu par le secrétaire général de l'UC, Dominique Fauchy.
Le FLNKS condamne l'usage disproportionné de la force par les autorités de l'État français qui relève de pratiques coloniales qui sont dépassées. Ces actions ne font qu'aggraver la situation sur le terrain et éloigner la perspective d'une solution pacifique. Nous exigeons une désescalade immédiate des interventions militaires dans le sud de notre pays. Particulièrement à Saint-Louis, où la militarisation et les pressions continuent sur la population qui ne peuvent que conduire à davantage de drames humains.
Et le haut-commissaire a réagi aux déclarations du FLNKS.
Le premier qui a été tué, c'est un gendarme mobile de 22 ans. Il s'appelle Molinari. Il a été tué le 14 mai près du pont de la Coulée. Personne s'en est ému au sein de ce parti politique. J'aurais bien aimé les entendre. Quand il y a eu des carjackings, quand il y a eu des tirs, nombreux encore la semaine dernière, appliqués contre les véhicules de la gendarmerie. J'aurais bien aimé les entendre. Moi, la seule chose que je retiens de ce communiqué, c'est le non-recours à la violence. Ça, c'est positif, pas le reste. Et comme je l'ai déjà dit, tout ce qui est excessif est insignifiant.
Et on peut également ajouter le démenti du parquet concernant une information diffusée sur les réseaux sociaux selon laquelle un enfant aurait été blessé au cours de cet affrontement avec les forces de l'ordre. Une information démentie par le procureur Yves Dupas. Et précisons enfin qu'après la mort de deux hommes à Saint-Louis, le Sénat coutumier a décidé hier de reporter l'événement qui était prévu à l'origine les 23 et 24 septembre dans l'enceinte de l'institution à Nouville. Et enfin, vos rendez-vous d'antenne sur Radio Rythme Bleu, c'est Jean-Pierre Jaïwe, l'un des porte-parole du PALICA et chef du groupe uni au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui sera ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il sera interrogé sur son analyse de la situation 4 mois après le 13 mai. et sur le positionnement du Palika à l'égard du FNNKS, mais aussi pour l'avenir institutionnel. Jean-Pierre Djaoué, invité de Transparence, c'est à suivre à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Et ce matin, on s'intéressera à la refonte complète de l'organisation des transports dans l'agglomération après les violences insurrectionnelles. Puisqu'il en faut une, c'est la position en tout cas du SMTU qui regrette la décision unilatérale de Carouillat de remettre ses bus en circulation et qui propose de travailler une reprise en mode dégradé à partir du 1er octobre. Alors quelle est aujourd'hui la situation du transport en commun et quelles sont les conditions pour que le service puisse reprendre normalement? Ce sont les questions que nous poserons ce matin à Naya Wateou, la présidente du SMTU. Elle sera en effet notre invitée tout à l'heure à 7h30. En attendant, il est 6h passé de 41 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Après la pause publicitaire, on va se retrouver pour l'actualité en métropole et notamment eh bien, la nomination du nouveau gouvernement. On y voit un petit peu plus clair puisque Michel Barnier a présenté quelques noms à l'Élysée.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00, RIAS 170 052, ORIAS 13 103.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Bonne nouvelle, vos nouveaux magasins Jiffy sont ouverts à compter de ce vendredi 20 septembre. Rendez-vous à Ducos rue OR et à Koumac, entrée du nouveau complexe. Tout pour la déco, maison, cadeaux, plein air, jouets, vaisselle, accessoires, gadgets. Et plein d'autres choses encore à découvrir. Jiffy Koumac Ducos Centre-Ville, nos magasins sont ouverts du lundi au samedi de 8h à 17h.
Jiffy des idées de génie.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Michel Barnier, à l'Élysée, le Premier ministre propose un gouvernement au président de la République 2 semaines après sa nomination à Matignon et après de nombreuses consultations pour respecter les équilibres politiques. D'ultimes discussions à Matignon ont d'ailleurs eu lieu cette nuit pour nous, à l'issue desquelles Michel Barnier a fini par établir une liste de 38 ministres, Alexandre Chauveau.
Liste discutée en ce moment même avec Emmanuel Macron et dont on peut vous dévoiler les premiers noms. Bruno Retailleau sera proposé par le Premier ministre pour le poste de ministre de l'Intérieur. Le président Renaissance de la Commission des Affaires Économiques de l'Assemblée, Antoine Armand, député de Haute-Savoie, devrait être proposé pour Bercy. La députée macroniste de Paris, Astrid Panosian, au ministère du Travail. La députée moderne des Landes, Geneviève Darrieussecq à la Santé. Sébastien Lecornu resterait aux armées. La LR, Annie Genevard, hériterait de l'agriculture. Son collègue au Sénat, François-Noël Buffet des Outre-mer. Dans cette liste qui reste donc toujours à confirmer, Laurent Wauquiez est absent. Le président du groupe LR à l'Assemblée a en effet indiqué à ses troupes qu'il ne participerait pas au gouvernement. Et ce, alors que Bercy lui aurait été proposé. Les LR n'obtiendraient que 3 ministères de plein exercice sur 16, alors qu'une dizaine d'entre eux reviendraient à des élus de la majorité sortante.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Et avant de se rendre à l'Élysée, Michel Barnier recevait les forces politiques susceptibles d'être présentes dans ce nouveau gouvernement. Et selon le chef des députés donc, du camp présidentiel, Gabriel Attal, le Premier ministre s'est engagé à ne pas augmenter les impôts des classes moyennes et des Français qui travaillent. En bref, de nouvelles violences en Martinique. Malgré le couvre-feu, les forces de l'ordre ont essuyé des tirs à balles réelles et des jets de cocktails Molotov. Une station de lavage de voitures a été incendiée, mais aucun blessé n'a été recensé. 12 personnes ont été interpellées et 12 barrages levés sur l'île, toujours secoués par un mouvement de contestation contre la vie chère. Le couvre-feu est donc en vigueur entre 21h et 5h dans plusieurs quartiers de Fort-de-France. L'actualité à l'étranger maintenant, le chef du Hezbollah promet des représailles. Hassan Nasrallah a pris la parole après les 2 attaques meurtrières, explosion de beeper et de talkie-walkie. Il promet donc de venger le Hezbollah en pointant du doigt Israël. Pour le chef de la milice chiite, cela ne fait aucun doute. L'État hébreu est à l'origine de ces 2 attaques successives. Très véhément pendant son discours, le leader du groupe terroriste admet que son mouvement a reçu un coup sans précédent dans l'histoire du Liban et il promet donc d'intenses représailles envers Israël.
Il ne fait aucun doute que l'agression qui a eu lieu est majeure. Et comme je l'ai dit dans mon discours, elle est sans précédent et fera l'objet d'un terrible châtiment et d'une juste rétribution, là où Israël peut s'y attendre, mais aussi là où il ne s'y attend pas.
Hassan Nasrallah accuse également Israël d'avoir franchi toutes les lignes rouges, promettant à maintes reprises une vengeance terrible. En plein discours, 2 avions de l'armée israélienne ont franchi le mur du son à basse altitude au-dessus de la capitale libanaise. Tzahal qui affirme que les opérations militaires contre le Hezbollah vont continuer au Liban. Il est 6h passé de 45 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. L'Association française des maires réunissait son assemblée générale hier et propose le report des élections provinciales. On en parle juste après la pub.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Le fitness débarque au Quartier Latin avec The Box. Un univers où l'on casse les codes avec des entraînements pour tous, des cours collectifs agréés, les MILS et des cours coachés en small group. The Box, ouverture le 30 septembre. Renseignements au 74 08 25.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
Et l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie demande, je le disais, le report des élections provinciales. Elle devait avoir lieu avant le 15 décembre 2024, mais les maires estiment que les conditions ne sont pas réunies pour organiser le scrutin. Ils demandent donc à l'État de reporter les provinciales. C'est ce que nous a dit Pascal Vittori, le maire de Boulou-Paris et président de l'Association française des maires.
Il y a eu unanimité des maires pour dire qu'on n'était pas prêt aujourd'hui, que la sécurité n'était pas rétablie pour organiser des élections provinciales au mois de décembre. Et donc nous nous sommes prononcés pour un report de ces élections provinciales. Il y a des raisons de sécurité, mais il y a aussi des raisons d'organisation. Des élections, c'est une grosse organisation pour les mairies et on a certaines mairies qui sont encore occupées à assurer la sécurité, à préparer la reconstruction, etc. Et puis enfin, on a aussi des raisons financières, puisque des élections, ça coûte cher et que beaucoup de communes sont aujourd'hui en difficulté et qu'on n'a pas besoin de rajouter des dépenses supplémentaires en ce moment.
Une position prise hier matin à l'occasion de la réunion de l'Assemblée Générale de l'Association qui s'est déroulée en présence du commissaire délégué de la province sud, Grégory Lecru, du directeur des finances publiques et du directeur de l'AFD. Cette Assemblée Générale a également été l'occasion de faire le point sur les difficultés financières que rencontrent les communes.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Faut-il, selon vous, reporter les élections provinciales qui sont prévues avant le 15 décembre 2024, comme le souhaite l'Association française des maires? Si vous pensez qu'il faut reporter ces élections provinciales, vous tapez 1. Si vous pensez qu'il faut les maintenir, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Voici maintenant la réponse à notre question d'hier. On en parlait tout à l'heure. 80% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS trouvent inquiétant que le Premier ministre Michel Barnier mette autant de temps à constituer son gouvernement. Ils sont donc 20% à trouver cela normal. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Dans le reste de l'actualité ce matin, hier était une date toute particulière, le 19 septembre, puisque le 19 septembre 1940, la Nouvelle-Calédonie fut l'un des premiers territoires français à rallier la France libre, Isabelle Pelletier.
Il y a 84 ans, plusieurs centaines de broussards rejoignaient les rangs de la résistance et descendaient sur Nouméa, un patriotisme célébré hier matin à la Croix de Lorraine au Mont Coffin. Pour rendre hommage au ralliement de la Calédonie à la France libre, le haut commissaire Louis Lefranc a déposé une gerbe au pied de la Croix de Lorraine, cette croix qui est un symbole fort de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Le général Liane Latil la porte fièrement à l'épaule, il est le commandant supérieur des forces armées de Nouvelle-Calédonie.
C'est effectivement une date importante à plusieurs titres. D'abord pour l'histoire des forces armées en Nouvelle-Calédonie, c'est une date symbolique. D'ailleurs, nous portons tous à l'épaule ou sur notre drapeau bleu, blanc, rouge, la Croix de Lorraine, ce qui signifie beaucoup en termes de symbolique et notre attachement à la France libre et au ralliement au général de Gaulle. Et puis c'est aussi une date importante parce qu'elle montre que même quand tout va très mal, il y a toujours des gens qui sont capables de sursaut, de se mobiliser, porter un espoir vers l'avenir. Donc c'est important.
Une cérémonie animée par Michel Mourguet, délégué général de la Fondation de la France libre en Nouvelle-Calédonie, était également présente. La première vice-présidente du Congrès, Virginie Rufnac, la vice-présidente du gouvernement, Isabelle Chamorro, la présidente de la province sud, Sonia Baquès, et la maire de Nouméa, Sonia Lagarde.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h50.
Un hommage solennel rendu au palais de justice de Nouméa à Faute Trolu, premier juge canac. Il avait été magistrat au tribunal de Nouméa de 1983 à 2013, Isabelle.
Et la salle d'audience de la cour d'assises était pleine à l'occasion de cette cérémonie d'hommage à Faute Trolu, décédé en avril dernier des suites d'une longue maladie. Il avait 76 ans. Sa famille, ses proches, le président du tribunal de première instance de Nouméa, l'ensemble des magistrats et fonctionnaires du tribunal, mais aussi le procureur de la République, lui ont rendu un dernier hommage. On écoute Yves Dupas.
C'était un hommage très très émouvant à la mémoire de Faute Trolu, que j'ai connu dans les années 90. Il était magistrat. J'étais directeur du centre pénitentiaire de Nouméa. Et je garde vraiment en mémoire d'abord cet homme remarquable, très humble, toujours positif. Et puis ce magistrat, dans son impartialité, dans son objectivité, voilà, un grand magistrat.
En marge de la cérémonie d'hommage à Faute Trolu avait lieu une audience solennelle de présentation de plusieurs magistrats, parmi lesquels Océane Trolu, fille de Faute Trolu, comme magistrate à titre temporaire.
Contente déjà d'être en arrivée là, parce que c'est vrai que c'est pas chemin facile. Hein, il faut bosser. Et j'en profite ici pour passer un message pour les jeunes de mon pays, hein, pour tous les Calédoniens. Je les encourage à venir et à s'orienter vers ce genre d'études, ce genre de prendre ce chemin, parce que le pays en a besoin.
Océane Trolu qui devient donc officiellement la deuxième juge kanak 40 ans après son père.
Et ils sont 14 à avoir reçu hier soir la médaille d'honneur de l'engagement ultramarin. Une médaille d'or, une en argent et 12 en bronze. En 2022, Sébastien Lecornu, alors ministre des Outre-mer, a souhaité que la création de ce titre honorifique soit une marque de considération et de respect vis-à-vis des territoires ultramarins. Une cérémonie présidée hier soir par Stanislas Alfonsi, le secrétaire général du Haut-Commissariat.
Dans cette période très particulière que vit le territoire, il est important que nous puissions adresser nos remerciements à ceux qui font vivre le territoire, qui le font rayonner et qui tiennent bon dans ces circonstances très difficiles. C'est du côté de l'État une manière de les remercier, à la fois pour ce qu'ils font et pour le soutien également qu'ils nous apportent. Leur engagement quotidien finalement est notre récompense. Elle se distingue surtout par sa diversité. On l'a vu, ce sont des gens de tous horizons, ce sont des gens de toutes catégories sociales. Ce sont des gens de toutes origines, de toutes formes d'implication professionnelle, personnelle, associative. Et c'est finalement une promotion à l'image des Outre-mer et à l'image de la Nouvelle-Calédonie que nous avons remercié ce soir.
Une cérémonie créée dans le but, je le disais, de valoriser les personnes qui ont servi la cause ultramarine. Et parmi les 14 nouveaux récipiendaires, Jean-Marie Cavier, directeur territorial de la police nationale.
Voilà, cette médaille est pour moi une reconnaissance, c'est un remerciement. Et bien sûr, je l'apprécie comme tel. Je remercie monsieur le commissaire, bien sûr. Je remercie également monsieur le directeur général de la police nationale qui ont voulu marquer mon engagement outre-mer après Mayotte, puisque c'est maintenant la quatrième année que je suis en Nouvelle-Calédonie sur cette mission qui a connu des moments difficiles. Je suis toujours aussi engagé dans ma mission. Jusqu'au dernier jour, j'assumerai entièrement ma mission. Et bien sûr, c'est un honneur d'avoir été choisi pour la remplir. Donc, je remplirai mes engagements jusqu'au dernier jour.
Et dans cette promotion, on retrouve également Guy Raguin, mais aussi le cofondateur de l'association Marguerite, Manuel Cormier, ou encore la présidente de la CMA, Elisabeth Rivière.
Sentiment de fierté et puis de reconnaissance. C'est un engagement que j'ai auprès de la population et plus particulièrement des artisans. Je le fais avec tout mon cœur et avec tout ce que je peux faire. Et dans cette période difficile, c'est un soutien aux artisans. Et cette médaille, c'est la mienne, mais c'est aussi la leur. Et je partage ce moment et avec eux. Et c'est la médaille pour l'artisanat en Nouvelle-Calédonie. Je continue cet engagement, pas pour obtenir des médailles, mais pour faire évoluer aussi l'artisanat en Nouvelle-Calédonie. On a entendu la voix de notre jeunesse et à travers l'artisanat, on est là présent pour les accompagner dans des formations et avec nos entreprises.
Et de nombreuses personnalités sportives auraient dû recevoir une médaille d'honneur de l'engagement ultramarin, notamment des sélectionnés pour les Jeux Olympiques, mais ils sont actuellement en métropole. Il est 6h54, on va justement parler de sport dans un instant, ce sera juste après la pub avec notamment la Ligue des Champions, puisque ça continue ce matin encore, ou encore le Calédonien Alexis Mathieu qui prolonge au PSG Judo.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Besoin d'une pause gourmande? Faites escale au 140 Promenade Roger Larocque. Petit déjeuner, dîner, pause sucrée ou after work. Venez découvrir nos nouvelles saveurs et créations à l'escale. Nous vous accueillons tous les jours de 6h30 à 20h30 pour tous vos instants. Réservez dès maintenant au 23 01 30 et retrouvez plus d'infos sur notre page Facebook Château Royal.
Une chute, un accident de sport, de jardinage ou de bricolage, ça n'arrive pas qu'aux autres. Pour vous protéger, AXA dispose du contrat Ma Protection Accident à partir de 1074 francs par mois. Pour en savoir plus, contactez vite votre conseiller AXA. AXA, à vos côtés. La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, première radio d'information.
Toute l'actualité sportive, c'est la suite de votre journal. On retrouve Nicolas Legrand.
Et encore de la Ligue des champions de football ce matin avec 6 rencontres au menu de ce petit déjeuner sportif. Une première pour Brest, le stade brestois qui accueille au Roudourou à Guingamp le Sturm Graz depuis 6 heures. C'est la mi-temps et Brest résiste bien et avait même ouvert le score à la 23e minute de jeu par Magnetti. Il y a un but partout actuellement puisque Sturm Graz est revenu grâce à un but contre son camp d'un Brestois à la 45e minute de jeu. On suit ce matin tout particulièrement également Monaco qui accueille le FC Barcelone. Là aussi, un but partout et c'est aussi Monaco qui avait ouvert le score à la 16e minute de jeu avant que Yamal n'égalise. Et puis, on a aussi deux autres rencontres qui sont en cours en ce moment avec un partout entre l'Atlético de Madrid et le RB Leipzig et puis 0-0 à la mi-temps entre l'Atalanta Bergame et Arsenal. Avant cela, le Bayer Leverkusen est allé s'imposer facilement et largement face au Feyenoord Rotterdam 4-0 et Benfica a battu l'Étoile Rouge Belgrade 2-1. En futsal, la France est en huitième de finale de la Coupe du Monde en Ouzbékistan. Pour leur première participation, les Bleus ont battu le Venezuela lors de la deuxième journée de phase de poule, 7-3. Deuxième succès en autant de rencontres. Avec 6 points, la France va s'offrir lundi une sorte de finale pour la tête du groupe face à l'Iran, qui est considérée comme la meilleure équipe de cette poule, en tout cas sur le papier. Et puis c'est un coup de tonnerre pour le volley français. Erwin Engapet, la star des Bleus, champion olympique, s'est engagé avec Poitiers, son club de cœur, pour la saison à venir. Après 13 ans à l'étranger, c'est donc un sacré coup de projecteur pour le champion de France, pour le championnat de France, la Marmara Spike League. Et puis le Calédonien, je le disais, Alexis Mathieu prolonge au PSG Judo, du côté des transferts toujours. Le judoka originaire de Koumax s'est exprimé sur les réseaux sociaux du club et il espère que les résultats seront au rendez-vous cette saison.
J'ai prolongé avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2026. C'était pour moi quelque chose d'important parce que j'avais déjà fait 2 ans avec le Paris Saint-Germain qui s'était plutôt bien passé. Donc c'était, on va dire, normal. C'était une prolongation du travail fourni et j'espère que les résultats viendront avec le club.
Et voilà donc pour cette réaction d'Alexis Mathieu sur les réseaux sociaux du PSG Judo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et pour terminer ce journal, la météo avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin le soleil dominera sur l'ouest et la pointe nord sous un léger voile de nuages élevé. Ailleurs, les nuages domineront et déposeront quelques gouttes, ce sera sur la côte est, la pointe sud et les loyautés. Le vent lui sera orienté est-nord-est pour ce matin entre 5 et 10 nœuds. Sur la côte ouest, il sera variable faible en matinée puis les brises de mer se mettront en place. Cet après-midi, sur la côte ouest, le temps restera bien ensoleillé malgré des voiles de nuages élevés. Ailleurs, les nuages resteront plus présents, de faibles averses se développeront sur le relief et déborderont localement vers les côtes, d'autres qui circuleront en loyauté et sur la côte est. Le vent orienté toujours à l'est-nord-est entre 5 et 10 nœuds. Sur la côte ouest, les brises de mer de sud à sud-est seront comprises entre 5 et 10 nœuds. Les températures maximales sont en hausse, elles seront comprises entre 24 et 27 degrés, localement 28 à 29 degrés, ce sera sur la côte ouest.
Merci beaucoup Thierry, c'est donc la fin de ce journal.